Livre 1, chapitre 3, grand 1. Nous avons vu que le postulat sous-entendu de l'animisme est que la religion, à son origine tout au moins, n'exprime aucune réalité expérimentale. C'est du principe contraire que part Max Müller. Pour lui, c'est un axiome que la religion repose sur une expérience dont elle tire toute son autorité. La religion, dit-il, pour tenir la place qui lui revient comme élément légitime de notre conscience, doit, comme toutes nos autres connaissances, commencer par une expérience sensible. Reprenant à son compte le vieil adage empirique « Nihil est in intellectu quod non ante fuerit in sensu », il l'applique à la religion et déclare qu'il ne peut rien y avoir dans la foi qui n'a été auparavant dans le sens. Voici donc, cette fois, une doctrine qui paraît devoir échapper à la grave objection que nous adressions à l'animisme. Il semble en effet que, de ce point de vue, la religion doive nécessairement apparaître, non comme une sorte de vague et confuse rêverie, mais comme un système d'idées et de pratiques bien fondées dans la réalité. Mais quelles sont les sensations génératrices de la pensée religieuse? Telle est la question que l'étude des Védas devait aider à résoudre. Les noms qui portent les dieux sont généralement ou des noms communs, encore employés comme tels, ou d'anciens noms communs dont il est possible de retrouver le sens originel. Or, les uns et les autres désignent les principaux phénomènes de la nature. Ainsi, Agni, nom d'une des principales divinités de l'Inde, ne signifiait d'abord que le fait matériel du feu, tel que les sens le perçoivent, et sans aucune addition mythologique. Même dans les Védas, il est encore employé avec cette acception. En tout cas, ce qui montre bien que cette signification était primitive, c'est qu'elle s'est conservée dans d'autres langues indo-européennes, le latin Ignis, le lituanien Unis, l'ancien slave Oni, sont évidemment proches parents d'Ani. De même, la parenté du sanskrit Dios, du Zeus grec, du Jovis latin, du Zio duo allemand est aujourd'hui incontestée. Elle prouve que ces mots différents désignent une seule et même divinité, que les différents peuples indo-européens reconnaissaient déjà comme tels avant leur séparation. Or, Dios signifie le ciel brillant. Ces faits et d'autres semblables tendent à démontrer que, chez ces peuples, les corps et les forces de la nature furent les premiers objets auxquels se prit le sentiment religieux. Ils furent les premières choses divinisées. Faisant un pas de plus dans la voie de la généralisation, Max Müller s'est cru fondé à conclure que l'évolution religieuse de l'humanité en général avait eu le même point de départ. C'est presque exclusivement par des considérations d'ordre psychologique qu'il justifie cette inférence. Les spectacles variés que la nature offre à l'homme lui paraissent remplir toutes les conditions nécessaires pour éveiller immédiatement dans les esprits l'idée religieuse. En effet, dit-il, au premier regard que les hommes jetèrent sur le monde, rien ne leur parut moins naturel que la nature. La nature était pour eux la grande surprise, la grande terreur. C'était une merveille et un miracle permanent. Ce fut seulement plus tard, quand on découvrit leur constance, leur invariabilité, leur retour régulier, que certains aspects de ce miracle furent appelés naturels, en ce sens qu'ils étaient prévus, ordinaires, intelligibles. Or, c'est ce vaste domaine ouvert aux sentiments de surprise et de crainte, c'est cette merveille, ce miracle, cet immense inconnu opposé à ce qui est connu, qui donna la première impulsion à la pensée religieuse et au langage religieux. Et, pour illustrer sa pensée, il l'applique à une force naturelle, qui tient une grande place dans la religion védique, au feu. « Essayez, dit-il, de vous transporter par la pensée à ce stade de la vie primitive où il faut de toute nécessité rejeter l'origine et même les premières phases de la religion de la nature. Vous pourrez aisément vous représenter quelle impression dut faire sur l'esprit humain la première apparition du feu. De quelque manière qu'il se soit manifesté à l'origine, qu'il soit venu de la foudre, ou qu'on l'ait obtenu en frottant des branches d'arbres les unes contre les autres, ou qu'il ait jailli des pierres sous forme d'étincelles, c'était quelque chose qui marchait, qui avançait, dont il fallait se préserver, qui portait la destruction avec soi, mais qui, en même temps, rendait la vie possible pendant l'hiver, qui protégeait pendant la nuit, qui servait à la fois d'arme offensive et défensive. Grâce à lui, l'homme cessa de dévorer la viande crue et devint un consommateur d'aliments cuits. C'est encore au moyen du feu que, plus tard, se travaillèrent les métaux, que se fabriquèrent les instruments et les arbres. Il devint ainsi un facteur indispensable de tout progrès technique et artistique. Que serions-nous, même maintenant, sans le feu ? L'homme, dit le même auteur dans un autre ouvrage, ne peut pas entrer en rapport avec la nature sans se rendre compte de son immensité, de son infinité. Elle le déborde de toutes parts. Au-delà des espaces qu'il perçoit, il en est d'autres qui s'étendent sans terme. Chacun des moments de la durée est précédé et suivi par un temps auquel aucune limite ne peut être assignée. La rivière qui coule manifeste une force infinie, puisque rien ne l'épuise. Il n'y a pas d'aspect de la nature qui ne soit apte à éveiller en nous cette sensation accablante d'un infini qui nous enveloppe et nous domine. Or, ce serait de cette sensation que seraient dérivées les religions. Cependant, elles n'y étaient qu'en germe. La religion n'est vraiment constituée que quand ses forces naturelles ont cessé d'être représentées aux esprits sous la forme abstraite. Il faut qu'elle se transforme en agent personnel, en être vivant et pesant, en puissance spirituelle de Dieu, car c'est à des êtres vivants de ce genre que s'adresse généralement le culte. On a vu que l'animisme lui-même est obligé de se poser la question, et comment il l'a résolue. Il y aurait chez l'homme une sorte d'incapacité native à distinguer l'animé de l'inanimé, et une tendance irrésistible à concevoir le second sous la forme du premier. Cette solution, Max Müller la repousse. Suivant lui, c'est le langage qui, par l'action qu'il exerce sur la pensée, aurait opéré cette métamorphose. On s'explique aisément que, intrigués par ces forces merveilleuses dont ils se sentaient dépendre, les hommes aient été incités à y réfléchir, qu'ils se soient demandé en quoi elles consistaient, et aient fait effort pour substituer à l'obscure sensation qu'ils en avaient primitivement une idée plus claire, un concept mieux défini. Mais, dit très justement notre auteur, l'idée, le concept sont impossibles sans le mot. Le langage n'est pas seulement le revêtement extérieur de la pensée, c'en est l'armature interne. Il ne se borne pas à la traduire au dehors une fois qu'elle est formée, il sert à la faire. Cependant, il a une autre nature qui lui est propre, et par suite, des lois qui ne sont pas celles de la pensée. Puisque donc il contribue à l'élaborer, il ne peut manquer de lui faire violence en quelque mesure et de la déformer. C'est une déformation de ce genre qui aurait fait le caractère singulier des représentations religieuses. Penser, en effet, c'est ordonner nos idées. C'est par conséquent classer. Penser le feu, par exemple, c'est le ranger dans telle ou telle catégorie de choses, de manière à pouvoir dire qu'il est ceci ou cela, ceci et non cela. Mais d'un autre côté, classer, c'est nommer. Car une idée générale n'a d'existence et de réalité que dans et par le mot qu'il exprime et qui fait à lui seul son individualité. Aussi, la langue d'un peuple a-t-elle toujours une influence sur la façon dont sont classées dans les esprits et, par conséquent, pensées, les choses nouvelles qu'il apprend à connaître, car elles sont tenues de s'adapter au cadre préexistant. Pour cette raison, la langue que parlaient les hommes quand ils entreprirent de se faire une représentation élaborée de l'univers marqua le système d'idées qui prit alors naissance d'une empreinte ineffaçable. Nous ne sommes pas sans avoir quelque chose de cette langue, au moins pour ce qui regarde les peuples indo-européens. Si lointaine qu'elle soit, il en reste, dans nos langues actuelles, des souvenirs qui nous permettent de nous représenter ce qu'elle était. Ce sont les racines. Ces mots souches, d'où dérivent les autres vocables que nous employons et qui se retrouvent à la base de tous les idiomes indo-européens, sont considérés par Max Müller comme autant d'échos de la langue que parlaient les peuples correspondants avant leur séparation, c'est-à-dire au moment où se constitua cette religion de la nature qu'il s'agit précisément d'expliquer. Or, les racines présentent deux caractères remarquables qui, sans doute, n'ont encore été bien observés que dans ce groupe particulier de langues, mais que notre auteur croit également vérifiable dans les autres familles linguistiques. D'abord, les racines sont typiques, c'est-à-dire qu'elles expriment non des choses particulières, des individus, mais des types, et même des types d'une extrême généralité. Elles représentent les thèmes les plus généraux de la pensée. On y trouve, comme fixées et cristallisées, ces catégories fondamentales de l'esprit, qui, à chaque moment de l'histoire, domine toute la vie mentale, et dont les philosophes ont bien des fois tenté de reconstituer le système. En second lieu, les types auxquels elles correspondent sont des types d'actions, non d'objets. Ce qu'elles traduisent, ce sont les manières les plus générales d'agir que l'on peut observer chez les vivants, et plus spécialement chez l'homme. C'est l'action de frapper, de pousser, de frotter, de lier, d'élever, de presser, de monter, de descendre, de marcher, etc. En d'autres termes, l'homme a généralisé et nommé ses principaux modes d'action, avant de généraliser et de nommer les phénomènes de la nature. Grâce à leur extrême généralité, ces mots pouvaient aisément s'étendre à toutes sortes d'objets, qu'ils ne visaient pas primitivement. C'est d'ailleurs cette extrême souplesse qui leur a permis de donner naissance aux mots multiples qui en sont dérivés. Quand donc l'homme, se tournant vers les choses, entreprit de les nommer afin de pouvoir les penser, il leur appliqua ses vocables, bien qu'ils n'eussent pas été faits pour elles. Seulement, en raison de leur origine, ils ne pouvaient désigner les différentes forces de la nature que par celles de leurs manifestations qui ressemblent le plus à des actions humaines. La foudre fut appelée « quelque chose qui creuse le sol en tombant ou qui répand l'incendie ». Le vent « quelque chose qui gémit ou qui souffle ». Le soleil « quelque chose qui lance à travers l'espace des flèches dorées ». La rivière, quelque chose qui court, etc. Mais parce que les phénomènes naturels se trouvaient ainsi assimilés à des actes humains, ce quelque chose à quoi ils étaient rapportés fut nécessairement conçu sous la forme d'agents personnels, plus ou moins semblables à l'homme. Ce n'était qu'une métaphore, mais qui fut prise à la lettre. L'erreur était inévitable, puisque la science qui, seule, pouvait dissiper l'illusion, n'existait pas encore. En un mot, parce que le langage était fait d'éléments humains qui traduisaient des états humains, il ne put s'appliquer à la nature sans la transfigurer. Même aujourd'hui, remarque M. Bréal, il nous oblige dans une certaine mesure à nous représenter les choses sous cet angle. Nous n'exprimons pas une idée, quand même elle désigne une simple qualité, sans lui donner un genre, c'est-à-dire un sexe. Nous ne pouvons parler d'un objet, qu'il soit considéré d'une façon générale ou non, sans le déterminer par un article. Tout sujet de la phrase est présenté comme un être agissant, toute idée comme une action, et chaque acte, qu'il soit transitoire ou permanent, est limité dans sa durée, par le temps où nous mettons le verbe. Sans doute, notre culture scientifique nous permet de redresser aisément les erreurs que le langage pourrait nous suggérer ainsi. Mais l'influence du mot dut être toute puissante alors qu'elle était sans contrepoids. Au monde matériel, tel qu'il se révèle à nos sens, le langage surajouta donc un monde nouveau, uniquement composé d'êtres spirituels qu'il avait créés de toutes pièces et qui furent désormais considérés comme les causes déterminantes des phénomènes physiques. Là, d'ailleurs, ne s'arrêta pas son action. Une fois que des mots eurent été forgés pour désigner ces personnalités que l'imagination populaire avait mises derrière les choses, la réflexion s'appliqua à ces mots eux-mêmes. Ils posaient toutes sortes d'énigmes, et c'est pour résoudre ces problèmes que les mythes furent inventés. Il arriva qu'un même objet reçut une pluralité de noms, correspondant à la pluralité d'aspects sous lesquels il se présentait dans l'expérience. C'est ainsi qu'il y eut plus de 20 mots dans les Védas pour désigner le ciel. Parce que les mots étaient différents, on crut qu'ils correspondaient à autant de personnalités distinctes. Mais en même temps, on sentait forcément que ces personnalités avaient un air de parenté. Pour en rendre compte, on imagina qu'elles formaient une même famille. On leur inventa des généalogies, un état civil, une histoire. Dans d'autres cas, c'était des choses différentes qui étaient désignées par un même terme. Pour expliquer ces homonymies, on admit que les choses correspondantes étaient des transformations les unes des autres, et on forgea de nouvelles fictions pour rendre intelligibles ces métamorphoses. Ou bien encore, un mot qui avait cessé d'être compris fut l'origine de fables destinées à lui donner un sens. L'œuvre créatrice du langage se poursuivit donc en construction de plus en plus complexe, et à mesure que la mythologie vint doter chaque dieu d'une biographie de plus en plus étendue et complète, les personnalités divines, d'abord confondues avec les choses, achevèrent de s'en distinguer et de se déterminer. Voilà comment se serait constituée la notion du divin. Quant à la religion des ancêtres, elle ne serait qu'un reflet de la précédente. La notion d'âme se serait d'abord formée pour des raisons assez analogues à celles que donnait Taylor, sauf que, suivant Max Müller, elle aurait été destinée à rendre compte de la mort, et non du rêve. Puis, sous l'influence de diverses circonstances, en partie accidentelles, les âmes des hommes, une fois dégagées du corps, auraient été peu à peu attirées dans le cercle des êtres divins, et elles auraient ainsi fini par être elles-mêmes divinisées. Mais ce nouveau culte ne serait le produit que d'une formation secondaire. C'est ce que prouve d'ailleurs le fait que les hommes divinisés ont très généralement été des dieux imparfaits, des demi-dieux, que les peuples ont toujours su distinguer des divinités proprement dites.